Ça y est, voilà le cafard qui revient. Le chagrin, la peine, l'écho, l'anxiolite, la fureur qui fait mal avec les autres mots. Les mots de la mort, et ainsi de suite. Une suite au Ritz, champagne, caviar, lys et sapin de saison. Sapin du jardin.
Affinité culturelle. Toufik Hakem.
Vous l'avez tout de suite reconnu, n'est-ce pas? Brigitte Fontaine, chez elle, rue Saint-Louis-en-Lille, lisant un extrait de son livre « Fatrasie » que son éditeur, le Tripode, vient de sortir pour fêter les 84 ans de l'artiste iconique. Dans « Fatrasie », Brigitte Fontaine raconte ce que le temps fait endurer à son corps. C'est un texte poignant, parfois un peu dur, il faut le dire, mais c'est toujours poétique et souvent drôle. Bref, c'est du Brigitte Fontaine. La grande artiste à la silhouette fine est toujours là, avec encore des projets de livres et de disques, et ce n'est pas la douleur physique qui va l'arrêter. Et on peut dire la même chose de notre seconde invitée, Vera Belmont, productrice, réalisatrice, qui, à plus de 90 ans, continue à développer de nouveaux projets de films. Et puis enfin, Serge Rezvani, peintre, écrivain, auteur, compositeur de chansons qui vieillissent plutôt bien, comme on dit. Le tourbillon de la vie, j'ai la mémoire qui flanche. Serge Rezvani, 95 ans, fêtera le 14 juillet au Festival d'Avignon pour une soirée en hommage à ses chansons mythiques, soirée où il compte bien monter sur scène pour interpréter sa propre Marseillaise.
Affinité culturelle.
Bonjour à toutes et à tous. Pas de répit, pas de retraite pour Brigitte Fontaine, Vera Belmont et Serge Rezvani. Ces trois artistes continuent de vivre et de nous faire rêver tout aussi intensément. Mais comment vivent-ils avec les temps passés? Comment voient-ils le temps qui reste? Enfin, en fin d'émission, la dernière de la saison, on retrouvera les trois chroniqueurs d'Affinité culturelle. Oriane Joncourt du magazine Transfuge, Jean-Michel Frodon du journal en ligne Slate et Frédéric Michel du site Avoir à lire. Mais tout d'abord, retrouvons chez elle Brigitte Fontaine pour prendre de ses nouvelles et aussi pour l'écouter lire quelques extraits de son dernier livre.
Ça te plaît? Comment je suis habillée?
Tout en blanc.
Le chapeau est noir. Et les sandales aussi.
Bon, on va dire que ça va aujourd'hui.
On va dire ce que vous voulez. Moi, je dis tout ce que vous voulez.
Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse finir votre cigarette. Vous pouvez faire les deux. Fumer et lire.
Je vais lire, si vous voulez. Oh, les jolis pieds. Les jolies mains. Tout le reste est bon pour la poubelle. Les mollets sont des sacs vides et durement flétris. Les bras sont une peau rageusement crépue, une peau de chagrin secouée de petits sanglots hachés. Le cou est celui d'un dindon. Je me délecte à détailler mes disgrâces. Fille, alors changeons de personne.
C'est un extrait de Fatrasie, votre dernier roman, donc Brigitte Fontaine, où vous parlez de vous-même.
Le plus récent, disons, le plus récent.
Il vient de sortir?
Oui, le nouveau, parce que j'en ai déjà commencé un autre.
Dans ce livre, vous racontez vos états physique, vos états d'âme, mais aussi les douleurs, parce que vous vivez avec des douleurs. Et puis j'aime bien cette phrase d'ailleurs. Vous dites, entre la mort et moi, un barrage, deux points, l'écriture.
Oui, 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 ils ont mis ça derrière, à la quatrième de couverture. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas particulièrement génial. Il y a mieux dans ce livre.
On a toujours l'impression, même quand c'est des textes très durs. Là, c'est des fragments de textes très durs.
Très durs, mais très rigolos aussi.
Oui, heureusement.
Les bras frisés et tout ça, c'est rigolo. C'est triste, mais c'est rigolo.
Oui, parce que la douleur est là. La décrépitude du corps est au centre de ce livre. Mais en même temps, il y a de la poésie.
Vous trouvez que mon corps est décrépit? Moi, j'ai le droit de le dire, mais pas vous.
Vous, vous l'écrivez?
Moi, je l'écris, oui, j'ai le droit, mais pas vous.
Mais moi, je vous trouve toujours aussi fine, aussi vive.
Voilà, voilà ce qu'il fallait dire.
Est-ce que le plaisir d'écrire est toujours intact, intense?
Oui. Le plaisir et l'effort sont à égalité, toujours là, là, et encore après, après, après.
Comment vous avez écrit ce livre, Brigitte Fontaine?
Allongée sur le côté gauche, pour pouvoir avoir la main droite, le bras droit libre, et pouvoir écrire sur un livre blanc, rigide, voilà.
Il y a des poèmes, il y a des fragments, il y a des courts textes, il y a même une histoire qui s'invite dans ce livre, avec deux personnages romanesques.
Plutôt hurluberlu.
Sabine et Mathéo?
Oui, Sabine et Mathéo.
Et je me suis posé la question, mais qui est cette Sabine? Qui est cette...
Elle est enceinte à 11 ans. Ouais. C'est juste ce qu'il faut.
Et Mathéo?
Mathéo, ben c'est lui qui a fait ça aussi. Ils ont fait ça ensemble.
Et c'est deux pré-adolescents qui s'aiment, qui vont donner naissance à un enfant pour qu'il soit trois enfants?
Trois frères et sœurs.
C'est la fiction qui s'invite dans votre journal de bord?
Oui, oui, journal de bord, si vous voulez. Non, c'est ce qui me passe par la tête. Et alors, où ce qui me passe sous les yeux? Les yeux.
On est beaucoup dans l'autoportrait, quand même, Brigitte Fontaine.
Non, non, j'aime pas les mots comme ça. Auto, baba, autodérision, autobiographie. J'aime pas ces mots-là.
Ben alors, je vais changer la formule. Vous parlez beaucoup de vous et de ce que vous endurez dans ce livre.
Si vous voulez, je parle de moi. Alors c'est honteux, je le dis d'ailleurs. Le moi est haïssable, ouais, ouais, ouais. Donc ce livre est haïssable, surtout ne l'achetez pas.
Le squelette tordu qui compose ma personne fit pitié par son élégance suppliciée. Le peu de chair qui reste est toute froissée. De quoi se moquer, quoi?
Oui, oui. D'accord. Oui, oui.
On m'a dit, c'est Ariski Belkacem, m'a dit que vous avez un nouveau téléphone, appareil, et que vous savez pas...
Abominable. Je ne sais pas m'en servir.
Est-ce que vous voulez que je vous aide?
Non.
Parce que pour vous, le téléphone Brigitte Fontaine ne sert qu'à appeler des amis, leur envoyer des messages, recevoir des messages...
Des messages, je ne sais pas envoyer des textos. C'est-à-dire comme vous appelez des SMS. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire, SMS, mais vous l'employez quand même. Ha ha! Permettez-moi de rire et de me moquer de vous.
Alors vous qui savez tout, Brigitte Fontaine?
Oui, je sais. Short Message System.
Waouh! Bravo.
Vous... Je n'emploie pas ce mot.
Vous préférez quoi?
Texto?
En tant que grande défenseuse de la langue française?
Je défends, oui, les armes à la main.
Je suis en train de rechercher sur un moteur de recherche que veut dire le titre de votre livre, Fatrasie. Alors, Fatrasie.
Une fatrasie, c'est une espèce de sac, de petit sac de soirée, grand comme tous les univers, où il y a un peu tous les temps et tous les univers. Il y a des grands poèmes en prose, il y a des petits poèmes en vers, il y a des histoires qui coulent et qui reviennent à la surface, et qui recoulent et qui reviennent. Je sais, je ne devrais pas fumer. Vous entendez certainement que ma voix est horrible.
Comment résumer ce livre, Brigitte Fontaine?
Un chaos, des vaguelettes, des frisettes, des bigoudis dans le désordre sur toute la terre, des bigoudis pour friser l'herbe par exemple, ou bien des mottes de velours qui sont les dos des tigres dorés et adorés. C'est mon prochain livre sera sur un tigre. Voilà, j'ai commencé, je continue.
Comment vous imaginez un livre? Vous avez le début, la fin?
Oh, jamais. Je fais ce qui se présente, poliment.
Et pourquoi ces dernières années, vous n'arrêtez pas d'écrire des livres? C'est juste pour reculer au maximum le retour en studio?
Non, je vais y aller quand ils se seront mis d'accord, tous ces gens-là. Bon, parce que... Bon, bref. Non, je vais le faire, le prochain disque. Mais je ne peux plus, car je fume trop. Donc, je ne peux plus, pour l'instant, en tout cas, jouer sur scène. Donc, il n'y a plus que l'écriture. Et... peut-être parfois l'enregistrement de disques, de albums.
Si vous parlez beaucoup de souffrance dans ce livre, jamais l'écriture a été pour vous une épreuve douloureuse.
Non, c'est un plaisir, mais un effort qui n'est pas douloureux. C'est un plaisir.
Et en quoi consiste cet effort à chercher le mot juste?
Oui, à chercher, à trouver, à se plaire. Alors, Dieu m'est témoin que jamais je n'ai employé un dictionnaire de rimes, car ce serait gâcher tout le plaisir.
Brigitte Fontaine, quand vous écrivez, vous êtes dans un état particulier ou vous continuez à être ce que vous êtes tout le temps?
Je continue à être ce que je suis et quand même, je suis un peu... dans un état d'excitation.
Nir, est-ce que vous vivez avec les souvenirs, ou du moins, est-ce que les souvenirs s'invitent dans votre présent, Brigitte Fontaine?
Oui, ils s'invitent, oui. Je voudrais redevenir une petite fille de 4 ans, ou 5 ans, ou 8 ans.
Comment ils s'invitent? Ce sont des flashs,
Oui, des petits flashs, des petites flammes qui sortent du frigo, par exemple.
C'est n'importe quoi ce que vous venez de dire.
N'importe quoi, absolument n'importe quoi. C'est parce que j'ai en face de moi un frigo.
Est-ce qu'on peut vous poser des questions du genre, est-ce qu'il y a une partie de votre vie, une époque de votre vie où vous avez été plus heureuse, que vous aimez, que vous affectionnez, que vous chérissez? Est-ce que vous avez de la nostalgie, Brigitte Fontaine?
Je n'ai aucune nostalgie sauf de mon enfance.
Pourquoi? Elle était comment, votre enfance, Brigitte Fontaine?
Elle était bien, simplement. La campagne, la liberté de sauter partout et d'aller dans les rivières, se faire manger par les sentus, des trucs comme ça, quoi. Mais parlons d'autre chose. Mais... parlons d'autre chose. Ô Dieu et le ciel bleu foncé, et moi qui suis encore vivante, longtemps je me suis couchée de bonheur. Je mourrai à Paris, mir licht, mais parlons d'autre chose.
Brigitte Fontaine, chez elle, juin 2023, tout en blanc, sauf le petit chapeau et ses sandales japonaises velours et paille.
Oui, alors le velours est noir et la paille est couleur paille.
Je vais vous laisser, Brigitte Fontaine, lire un autre extrait.
Calme plat, troué saccagé, un peu bombardé de douleurs diverses, rosées, noirâtres, ténébreuses, piquantes. Calme plat, près de la télé que nul ne regarde. Calme plat, dans les pommes de terre, en forme de cœur, qui vont peut-être brûler, ça fera une diversion. Calme plat, sur le lit fleuri de cendrier, de briquet, de lunettes, de mouchoirs malades, de téléphones muets, de stylos bancals, turbulences hérissées, aplaties d'oreillers, de lits chamarrés, une ou deux bonnes têtes à la télévision maintenant. C'est rare. Au revoir. Si vous ne voulez pas que je vous dise quel film j'adore, eh bien tant pis pour vous. Les films de ma vie.
Brigitte Fontaine.
Alors on commence par l'enfance, évidemment, mon héros, Charlot. Alors The Kid, les lumières de la ville, les temps modernes, etc. Bon, après, le silence de la mer, de Jean-Pierre Melville, Orphée. Le Cocteau, commencé avec Belmondo là.
À bout de souffle,
voilà. La femme d'à côté, le Truffaut, avec cette merveilleuse Fanny Ardant, d'après un livre que je ne connais pas ce que c'est. Mais évidemment, Le silence de la mer, c'est également d'après un livre qui s'appelle comme ça, et qui est de Vercors. Et puis il y a Charme discret de la bourgeoisie, de Buñuel, et également La voie lactée de Buñuel aussi, que j'adore. Plus récemment en tout cas, Carole, je ne sais pas de qui.
Todd Haynes.
Mais en tout cas, avec la merveilleuse Kate Blanchett. Et puis, un truc assez récent également, qui est Elvis et Nixon, de Liza Johnson. C'est très drôle, très formidable. Voilà.
Moi, je me souviens que très longtemps, vous adoriez In the Mood for Love.
Oui, j'adore In the Mood for Love. De
Wong Kar-wai.
Oh, voilà, Wong Kar-wai. Et puis, j'adore également Le Parrain numéro 1. Le Parrain.
Pas le 2, pas le 3 ?
Numéro 1. Au revoir. Je vous embrasse.
Je me suis trouvée là. Ce corps inconnu, pour Dieu c'est quel gala, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté dans ce monde étranger, ange au supermarché, il m'a fallu danser la java des terriens. Sans en connaître rien, je fais un genre humain, je viens d'un au-delà. souvenir brumeux d'une étoile angora, d'un chaos ténébreux. J'étais l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille dans ce lupanar impossible. Moi, l'eau du paradis, l'encre des galaxies. Je fais un genre humain. Je fais un genre, je fais un genre humain. Je fais un genre, je fais un genre. Et je fais de mon mieux.
Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces macarons? Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces macarons?
Un dimanche à l'heure du thé avec des macarons chez Vera Belmont, productrice et réalisatrice de films. 90 ans, plusieurs vies, des souvenirs de toutes les époques, une enfance en pleine guerre cachée chez des familles d'accueil qui sauvaient les juifs de la déportation, une jeunesse communiste, le désenchantement, les rêves de mai 68, la nouvelle vague qui va tout changer. Vera Belmont, productrice, petite de taille, grande gueule, une femme qui se bat dans un monde d'hommes. Quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur le milieu du cinéma français d'avant le mouvement MeToo ? Productrice de films populaires et de films d'auteurs de José Giovanni à Maurice Pialat et Nanni Moretti. Les jours heureux et les années 100. Le succès planétaire avec La guerre du feu de Jean-Jacques Annaud et le grand fiasco avec Survivre avec les loups. Vera Belmont a aussi réalisé quelques films dans le très personnel Rouge baiser au milieu des années 80.
Malgré des mises en garde fraternelles, Henriette s'est rendue en Yougoslavie pendant ses congés. Il est inutile de rappeler ici que le dirigeant yougoslave Tito a arraché son pays du camp socialiste pour le précipiter dans celui de l'impérialisme. Notre mot d'ordre est que jamais la jeunesse communiste française ne se rendra dans un pays dirigé par un traître.
Mais enfin, faut pas exagérer, c'est tout de même pas si grave. Ou alors il fallait en parler avant. Bon allez Henriette, dis-nous pourquoi t'as choisi d'aller en Yougoslavie et qu'on passe à autre chose, hein.
Bah oui, parce que j'ai une partie de ma famille là-bas et que mon père garde des liens avec eux. Vous savez, on peut rien leur reprocher à ma famille. Ils étaient résistants contre le nazisme. Enfin, ils ne sont quand même pas responsables de la rupture entre Tito et Staline.
Une famille comme ça, on la désavoue.
Il y en a qui savent choisir entre leur famille et la révolution. Qu'à Prague, par exemple, et en URSS, on a vu des femmes courageuses témoigner contre leur mari.
Mais si Henriette acceptait d'écrire dans notre journal ce qu'elle a vu là-bas? La répression fasciste qui s'abat sur les masses yougoslaves, par exemple.
Je peux pas. J'ai rien vu.
Comment ça, t'as rien vu? Il y a eu un reportage en Luma.
Oui, je sais. Je l'ai lu. C'est sûrement vrai. Mais moi, j'ai vu que ma famille...
Bah, je sais pas, franchement, on pourrait peut-être s'en tenir à un blâme collectif.
Oh non, ouais, ça serait trop facile.
Bah, Rouge baiser, c'est... pas vraiment mon premier film de fiction, parce que avant, j'avais fait un film auquel je tenais beaucoup, qui était Prisonnier de Mao. C'est-à-dire que c'était ce qui s'est passé dans les camps maoïstes et les gens imbéciles comme il y avait ici croyaient dans toute la politique de Mao en pensant que qu'il avait changé le monde et que enfin c'était horrible. Ils avaient changé le monde en les mettant dans les camps de travail, les maoïstes. C'était quelque chose. Et, écoute, c'était traité exactement comme les soviétiques dans les camps. C'est la même démarche chez ces imbéciles.
Prisonnier de Mao, vous le réalisez en 79, Rouge baiser, c'est en 85.
Rouge baiser raconte l'adolescence d'une enfant juive qui adhère aux jeunesses communistes et qui, là, elle veut changer le monde. Mais c'est eux qui vont changer parce qu'ils m'ont foutu à la porte. Ah, comme ça, c'était clair. Parce que j'avais la maladresse de poser des questions. Et dans ce sectarisme, particulièrement chez eux, il ne faut pas poser de questions parce qu'ils n'ont pas de réponse. Alors, ils font semblant de savoir, mais ils ne savent rien. C'est ça qui est le plus drôle, c'est que vous.
Vera Belmont, donc vous avez réalisé d'autres films, Marquise, Survivre avec les loups, et puis
Les secrets de mon père, dernièrement, sorti l'année dernière, hein, adapté de la bande dessinée de Michel Kishka, mais en tant que productrice, eh ben, vous avez travaillé dès le début des années 60 avec Paul Vecchiali, avec Marcel Carnet, puisque vous avez tourné avec lui, vous avez produit Les Jeunes Loups. Vous avez produit L'enfance nue de Maurice Pialla, et puis même le souvenir d'enfance d'André Téchiné. Avant de devenir productrice, comment êtes-vous entrée dans le monde du cinéma?
D'abord parce que j'allais beaucoup au ciné-club et posais les questions sur quel metteur en scène avait fait ça, sur ci, sur ça. Et moi, j'étais très forte pour les films américains, que je préférais aux films français. Mais après ça, j'étais pas bien vue là-dessus. Au jeunesse communiste. Un film américain, j'ai trouvé romanesque, enfin, plaisait plus. Dans un ciné-club comme ça, il y avait Truffaut, il y avait Godard, il y avait tout le monde, et c'est comme ça. Je suis arrivée par eux. Surtout par Truffaut. J'ai encore des lettres de François, je crois.
Claude Lanzmann, c'était bien de travailler avec lui?
Claude Lanzmann, mais il est mort il y a longtemps. Ah ouais, moi j'ai travaillé avec lui, oui, j'ai fait Pourquoi Israël? Et... À part qu'il est loin d'être stupide, bien sûr, il n'est pas bête, mais d'une telle prétention que ça finit par le rendre bête. Mais enfin, je l'aimais bien quand même. J'ai travaillé plus d'un an avec lui. Il est tellement décourageant que finalement, je n'ai pas fait la Shoah avec lui. Tu vois, je n'ai pas voulu. Pourtant, c'était bien sa Shoah. Ça voulait dire quelque chose, quoi. J'aimais bien quand même un peu Claude. Mais en même temps... Bizarrement, il était un peu méprisant pour les gens, ce qu'il appelait le peuple. Quand il serrait la main de mon père, il disait « Ah, ça, c'est des vraies mains de prolétaires. » Évidemment, mon père était ministre. Alors, tous ces mains étaient écorchées, dures comme du bois, comme son travail. Mon père travaillait avec ses mains. Il faisait des beaux meubles, ébéniste. Il faisait des beaux meubles, même pour Gilbert Bécaud. Il disait, il est drôle, là, cet artiste, il ne veut jamais me payer. Je dis, c'est ça, sa fonction. Godard, je n'ai jamais revu. Comme il était tout le temps en bagarre avec Truffaut, je prenais toujours position pour Truffaut, puisque j'aimais vraiment François. Je n'aimais pas Godard. Il était trop glacé, tu sais, trop... Il m'a des bêtes, hein. Oh là là, sa majesté. En 68, il l'appelait le plus con des Suisses. Le plus con des prolétaires suisses. je me rappelle de ça.
Vous avez été aussi comédienne dans votre vie dès les années 50. Vous avez joué au cinéma dans quelques films. Et surtout, vous avez été comédienne au théâtre en 1956. Bah ouais, vous jouez...
J'en oublie beaucoup de choses, c'est normal.
Vous avez joué dans La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre.
La plus respectueuse, c'est-à-dire qu'il y avait un concours qui se faisait d'amateurs dont les billets étaient payés par les gens communistes de l'époque de Varsovie. Et ceux qui gagnaient le concours, on leur payait le voyage. Nous l'avons gagné. Et moi, donc la plus respectueuse, Kaby l'avait monté, et je jouais à la plus respectueuse. Et comme on avait eu beaucoup de succès, on l'a repris à Paris. Et Jean Dasté, qui dirigeait le centre, hein, cherchait une putain. Alors, on lui avait dit, il y a une petite qui fait du théâtre amateur là-bas, du côté de Puteaux. Alors, il dit, je peux assister à une répétition. Il est venu d'Asté, et il a coupé la répétition, puis il a dit, à Gabi, s'est tourné. Il dit, ça vous dérange pas que je vous l'emprunte, parce que je ne trouverai jamais une meilleure putain qu'elle. Parce que, j'ai dit, pourquoi vous dites ça? Ça me vexait. Il dit, parce que vous avez un vrai côté populaire, et les putains, c'est pas des caricatures. C'est des gens, voilà, comme ils sont. Alors, comme j'étais prise, et j'ai joué la putain chez lui. Après, j'ai joué chez lui les frères Karamazov. Encore la putain, c'est Grushenka. Mais ça me plaisait pas. Je m'ennuyais beaucoup. Une fois que j'étais sur scène, au bout de 5 minutes, je me disais, mais quand est-ce qu'on va finir? Qu'est-ce qu'on s'emmerde à répéter toujours la même chose?
Vous avez été donc réalisatrice à une époque où il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices, productrice à une époque où il y avait très, 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 très peu de femmes productrices. Vera Belmont, Est-ce que vous qui avez traversé les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, dans le cinéma français en faisant à peu près tout, est-ce que vous avez été victime de misogynie ?
La misogynie dans le cinéma ? En tant que femme, on va être honnête. Tu avais des avantages et des inconvénients. Tu avais des avantages parce que quand tu allais voir les banquiers, les trucs, tu faisais un peu de minaudage, un peu de ceci, cela. Tu profitais de ta situation de jupe courte. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, quand il fallait tenir une grosse boîte ou quelque chose, on te demandait quelque chose d'important, c'est pas à moi qu'on demandait, c'est aux hommes. Les Américains, à ce niveau-là, étaient moins sectaires que les Français. Ils pouvaient mettre une place à la direction d'un studio, quelque chose. Ah oui, je l'ai vu faire. Ici,
Vera Belmont, d'après vous, quel est le plus beau film de cinéma ?
Même si c'est ridicule, c'est Les Odeurs Levant. Je ne l'oublierai jamais. Les Sœurs Brontë, c'est mes déesses.
Est-ce que vous avez des projets, Vera Belmont ?
Oui, bien sûr, tout le temps. Ben, si tu n'as pas de projet, c'est que tu n'as pas de demain. Alors demain, c'est le plus important. Des fois, je me dis que je vais faire des trucs importants à la télé, je me risquerais bien sur un truc en série, parce que ça mérite une série. Les communistes d'Aragon. Les communistes, ça s'appelle Les communistes, c'est tout. Des fois, je me dis que je vais faire des trucs importants à la télé, puis le lendemain, je sais déjà que je ne le ferai pas, parce que je crois que je m'en fous.
Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit, Vera Belmont, à propos de ce qu'on a vécu, à propos de la vie, à propos du temps qui nous reste encore?
Tant qu'on ne m'aura pas montré qu'il y a autre chose, je trouve ça très beau. La vie, c'est beau. Parce que je te dis, il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bon Dieu, il y a des trucs, il y a quoi? Alors c'est beau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
On apprend que vous êtes café, monsieur Serge Rezvani.
Oui, oui, plutôt. Mais c'est l'Orient, ça. Le thé, le café. Voilà. Bon.
L'auteur-compositeur des chansons cultes de Jeanne Moreau, entre autres, c'est lui, c'est Serge Rezvani. Il me reçoit dans son appartement, qui est aussi son atelier d'écrivain, de poète, de peintre, de dramaturge. Un album de reprise de ses chansons inédites, Chansons pour Lula, est sorti ce printemps. Et ce 14 juillet, au Festival d'Avignon, les artistes qui ont participé à ce disque, comme Dominique A ou Philippe Catherine, monteront sur scène avec lui pour une soirée France Culture, tout en hommage à l'artiste de 95 ans.
À vrai dire, je ne cherche pas à réussir une chanson. Et même toutes mes chansons ont été créées bien avant qu'elles n'aient dépassé le cercle de ma vie. Ces chansons faisaient partie de ma vie intime, surtout, et mes amis. Et puis, à partir du moment où elles sont devenues ce qu'elles sont, elles m'ont échappé, elles sont plus aux autres qu'à moi. Ou bien on est créatif, ou bien on est un artisan. Alors si on fait un objet, justement, de commande, on le refait toujours bien. L'artisan refait toujours la même chose parfaitement. Mais quand on se risque à être artiste, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il n'y en a pas d'autre. Quand on se risque dans l'art, on se risque vraiment d'être insatisfait, d'être presque malheureux parfois. Mais je vous dirais franchement que je brûlerais tous mes tableaux aujourd'hui, je serais soulagé. Je comprends très bien Kafka qui a demandé à Max Brod de brûler tous ses manuscrits. Il arrive un moment où on comprend qu'on a peiné toute une vie pour finalement ne faire que ça. Sauf que ce que vous renvoient les autres est très réconfortant et très chaleureux, disons, voilà.
Est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que pour vous, chaque chanson renvoie à un moment de votre vie, à des rencontres, et que c'est intimement lié à ces événements de la vie?
Je vais donner deux réponses. La première, c'est que, en effet, quand je vis avec une femme que j'aime et que je crée ces chansons, c'est évidemment... Tout ce que j'ai créé, c'est pour la séduire. Hein. Lula, ça a été 50 ans de quelque chose qui est indicible. Et donc, je n'arriverai jamais à comprendre comment j'ai pu rencontrer une femme d'une telle qualité, d'une telle beauté, et qui m'a fasciné pendant toute une vie. Donc, je ne pourrais pas dire que je me souviens chaque chanson que j'ai créée pour la séduire. Par contre, je pense que les chansons marquent le temps, ce que vous venez de dire, et c'est une restitution du temps qui est absolument incroyable. Moi, il y a des chansons pendant la guerre qui m'ont accompagné, ou quand j'étais jeune, ou mes premiers amours, et on est bouleversé de réentendre une chanson qui ne vieillit pas, qui est comme un parfum qui revient. Mais dans la création, je ne peux pas dire que... Elle fait partie de la création, et la création, c'est vraiment un moment très confus. Je ne crois pas que je pourrais dire à quel moment et comment sont venus, pas plus mes tableaux que mes livres, que mes essais, que mes poèmes ou que mes chansons. C'est très difficile. Non, c'est du temps perdu.
Qu'est-ce qu'on apprend du temps qui passe? Qu'est-ce qu'on apprend de la vie, Serge Rezvani?
Non, je ne crois pas que cette idée que j'ai 95 ans, ou je dis même pour rire, 100 ans moins 5... Parce que soyons quand même prêts à continuer. Parce que je crée, je continue beaucoup en ce moment à écrire, à faire des choses. Je pourrais dire comme Cocteau, j'ai beaucoup semé, c'est en train de lever. C'est un peu le cas en ce moment pour moi, oui. Beaucoup de choses se font à la fois. Et oui, ce que j'ai appris de la vie, vous savez, j'ai toute ma vie, c'est une sorte de devise depuis ma jeunesse, et ça a marché. C'est que j'ai toujours su ce que je ne voulais pas vivre. Pas ce que je voulais vivre, ce que je ne voulais pas. À ce moment-là, la vie est d'une générosité extraordinaire parce qu'elle a plein de fantaisies et elle vous offre sans arrêt des choses. Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Tout m'est venu tout seul, tout le temps.
Pourtant, vous avez traversé des périodes très dures, vous avez traversé la guerre, vous avez traversé des crises, vous avez aussi traversé des drames personnels.
Bien sûr, je pense que j'ai eu des moments culminants de bonheur comme peu d'êtres au monde. Je le dis vraiment en toute conscience, et j'étais toujours conscient. Et j'ai eu des malheurs que je pense que j'ai touché le fond. Mais quand on touche le fond, c'est la métaphore facile, quand on touche le fond, on donne toujours ce coup de pied extraordinaire qui vous renvoie plus haut qu'avant. Oui, ça a été mon cas, toujours. Et encore maintenant, j'ai eu de graves soucis, des graves ennuis, et chaque fois je rebondis vraiment d'une manière... ça finit par être ludique en même temps. Disons, c'est un peu comme au judo, quoi. On se sert de la force du malheur pour réussir autre chose, pour rebondir, oui, pour gagner quelque chose d'autre. Pas gagner, obtenir de la vie quelque chose d'autre. Voilà, d'inattendu. Je suis très conscient de ma chance. Je suis passionné par ce que je fais en ce moment, et comme toujours. Et puis j'ai des grandes amitiés, des grandes rencontres, des amours. Ça continue très fort. Disons que ça avance dans l'étonnement. Je suis très étonné de tout ce qui m'arrive, voilà, tout simplement.
Est-ce que le passé s'invite à chaque moment de votre présent? Comment vous faites? Est-ce que vous vivez avec? Est-ce que vous le tenez à distance?
À vrai dire, il faut que je traduise vos mots. Vous me parlez de la mort. Et donc, oui, finalement, toutes les femmes que j'ai aimées sont mortes. Ma mère est morte très prématurément, donc pour moi, le mot mort et mère se confondent. Ça a été ma toute petite enfance. Et toute ma vie, j'ai vécu avec cette mère morte qui était là, toujours là. Et finalement, j'ai un rapport à la mort, peut-être, qui est, j'ose pas le dire, une sorte d'indifférence envers la mort. Je n'ai pas de culte des morts, du tout. Et c'est vrai, prenons Lula, qui a été 50 ans d'amour, de beauté, de rire et de jouer. C'est une femme extraordinairement intelligente, joyeuse. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais en même temps, elle n'est plus là. Et disons que si je compare ce que la vie m'apporte aujourd'hui, si j'essaye de ne pas trop la comparer à ce que j'ai vécu avec elle, et dans des grands moments de bonheur, où nous vivions entre Venise et la gare de Fresnes. J'ai toujours vécu dans des lieux magnifiques, par chance aussi. Et j'ai une nostalgie du passé, mais j'ai beaucoup plus fort une nostalgie du présent. Et vraiment, ce que nous vivons là en ce moment, tous les deux, là par exemple, ça y est, ça bascule dans la nostalgie déjà. Mais bon, j'ai un tempérament bizarre, pas tout à fait commun, je pense, parce qu'à vrai dire, je devrais être 10 fois mort de malheur. Je ne peux pas être heureux par moi-même, donc j'ai toujours eu des femmes dans ma vie, et ces femmes, elles me permettent... Je ne peux pas être, oui, comme je vous l'ai dit, heureux par moi-même, je ne peux être heureux que par le bonheur que je peux donner à une femme, et c'est cette lumière qu'elle me renvoie de son bonheur qui me rend heureux, voilà. C'est un peu laborieux, mais bon, c'est dit.
Et le succès que vous avez eu avec vos chansons, c'est une forme aussi d'amour. Comment vous avez vécu cela ?
Écoutez, je vais vous dire une chose très simple. J'ai été très malheureux. J'étais un peintre presque mystique dans ma jeunesse. Bon, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai fait des grandes expositions dans des musées, partout. J'étais un peintre très, très, très en vogue à un moment. Et puis... J'ai inauguré Beaubourg, justement, et après ça, j'ai compris que ce n'était pas la peine que je continue, parce que la marchandisation de l'art, je ne dis pas de la peinture, de l'art, et puis ensuite tout le théâtre, souvent bête, souvent stupide, souvent cynique, qui se passe autour de l'art, avec les pays du Golfe, avec la Chine, avec le fric, a fait que je me suis complètement détourné. Je ne pouvais plus être le marchand de mes créations. Donc j'ai arrêté. Les chansons m'ont apporté cela, la possibilité de ne plus avoir à gagner ma vie par la peinture, ne plus être le marchand de mes tableaux, ne plus être soumis à tous ces gens de fric, parce qu'il y en a énormément. Les gens les plus riches du monde, je les ai vus, je les ai fréquentés, et ils sont venus m'acheter des tableaux, et finalement je ne veux plus les voir, je ne veux plus avoir à faire à ce commerce-là. Et par chance, les chansons, parce que chacun, je suis comme un type qui fait la manche un peu, ou bien mes chansons sont des petites putes, elles font le trottoir pour moi. Et donc, j'ai même écrit une chanson sur le tourbillon, ils ont regardé que le tourbillon faisait le trottoir, qu'elle en avait marre de faire le trottoir pour moi. Donc, c'est vous dire la distance que j'ai par rapport à tout ça. Mais donc, ça me permet d'être libre, tout simplement, et de, si j'ai envie d'écrire un livre, ben pendant 2 ans, j'écris ce livre. Si j'ai envie de peindre, je peins des séries de tableaux, mais bon, qui sont destinés à disparaître aussi. Tout ça, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je sais que je suis vraiment très dans le provisoire, croyez-moi.
Est-ce que vous chantez, Serge Rezvani ?
Je suis pas le type qui siffle en se rasant, parce que comme j'écris des chansons, ben là en ce moment, justement, j'ai une chanson qui me poursuit. Nuit et jour, j'arrive pas à la terminer, je la chante tout le temps, mais disons, je suis pas le peintre en bâtiment qui chante sur son échelle, pas du tout. Mais non, pour moi, les chansons se sont introduites dans ma vie comme une obsession quand même, c'est obsédant. Tant qu'une chanson n'est pas finie, c'est très obsédant. Je n'aime pas la chanson française, par exemple, tellement, bien que j'en ai écrit... Et dans les canons de la chanson française, j'ai pas fait exprès parce que je suis d'origine russe. J'adore chanter comme chantent les Russes ou les Italiens, qui quand ils sont ensemble, ils se mettent à chanter vraiment ensemble. C'est quelque chose de très, quand vous employez le mot de festif, là oui. Par contre, la chanson française est plutôt comme, elle est très construite, elle est comme des sketchs. Il y a les gens qui chantent et ceux qui sont assis qui les écoutent. J'aime pas tellement ça. J'aime bien le partage. Et la musique, pour moi, c'est un partage extraordinaire. Et puis la musique, il y a le silence. C'est malgré moi que j'ai écrit ces chansons, c'est malgré moi qu'elles font le tour du monde, d'ailleurs. C'est vrai, là, c'est un phénomène. Le tourbillon, par exemple, c'est phénoménal qu'elle dure depuis, je ne sais pas, depuis les années 60, et que ça saute de génération en génération. J'ai des petits-enfants de 4-5 ans qui me la chantent. C'est vraiment émouvant.
Quelle est la chanson ? Est-ce qu'il y a une de vos chansons que vous préférez?
Une chanson qui est pour moi, qui réunit, c'est une chanson philosophique qu'Anna Karina chante dans Pierrot le Fou, qui s'appelle « Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours, ô mon amour ». Pour moi, c'est ma chanson à tout point de vue. Elle dit tout ce que je pense de la vie, de l'amour. Voilà, cette chanson, pour moi, c'est au-delà de la chanson.
Donc vous allez pouvoir la chanter un tout petit peu.
Si vous voulez. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, ô mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, te connaissant, me connaissant. Voilà. ça dit tout.
Je vous laisse à votre chanson, parce qu'apparemment, c'est une séance de travail qui commence au piano.
Un petit peu, je ne sais pas. Avant, je composais la guitare, mais ça me fait trop mal aux doigts. Donc j'ai pris un piano, je ne sais pas, je n'ai jamais joué de piano, mais j'arrive à composer sur le piano. C'est plus doux pour les doigts, tout simplement.
Merci beaucoup Serge Rezvani.
Merci à vous, c'est très gentil d'être venu.
I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love.
Je ne me rappelle plus, mais sauf que c'était très beau et que j'adore Betty Davis. Faut prononcer Betty Davis. Je suis pas là pour donner des leçons à quiconque. Bon, et je l'adore surtout dans L'argent de la vieille. Elle est géniale. Mais j'aime beaucoup également dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il est arrivé à Baby Jane. Je ne me rappelle pas.
Mais alors, qui se souvient de ce qui est arrivé à Baby Jane ? Jean-Michel Frodon, Oriane Jeancourt, Frédéric Michel, je suis ravi de vous retrouver, chers chroniqueurs. Sans doute vous, Jean-Michel Frodon, vous savez qu'il y a une grande rétrospective Bette Davis cet été au Festival de La Rochelle qui commence aujourd'hui avec même un nouveau livre consacré à cette grande star du cinéma américain, écrit par Anne Capucine Blot. Bette Davis, fatiguée d'être moi, c'est chez Capricci. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première femme à vieillir avec nous au cinéma, dans le cinéma américain, avoir imposé aussi son corps vieillissant ? Jean-Michel Frodon.
D'abord, il faut dire Betty Davis, comme a dit Brigitte Fontaine. Parce que moi, je n'adore pas Betty Davis, mais j'adore Brigitte Fontaine, et donc je respecte tout ce qu'elle demande. Non, on peut dire que Lillian Gish ou Gloria Swanson avaient déjà été en situation, c'est très juste de se poser cette question-là, c'est-à-dire les femmes qui ont les premières brisé ce mur extraordinairement violent qui interdisait aux femmes de vieillir à l'écran. Même d'une certaine manière, Greta Garbo, à sa manière, elle a un peu laisser apparaître de l'évolution de son âge. Ce n'était pas ces sortes de poupées figées. C'est le sujet de qui est-il arrivé à Baby Jane.
Tant qu'on s'en souvenait.
Oui.
Moi, j'ai pratiquement oublié ce qui s'est... Je sais qu'il y a un drame qui se passe entre deux sœurs, que John Crawford et Bette Davis sont excellentes, et je reverrai avec plaisir ce film, 60 ans après sa réalisation, dans cette belle rétrospective que lui consacre le Festival de La Rochelle.
Mais Brigitte Fontaine a raison, c'est dans L'argent de la vieille qu'elle est vraiment géniale. Betty Davis ayant atteint un certain âge.
Alors, puisqu'on parle des longues carrières au cinéma, je vais reprendre votre liste, Jean-Michel Frodon. Hein. Vous avez dressé une liste des réalisateurs qui ont dépassé les 80 balais et qui continuent à faire des films. Fred Wiseman, 93 ans, Clint Eastwood, 92, Alain Cavalier, 91, Polanski, 89, Woody Allen, 87, Ken Loach, 86, Kolimowski, 84, Verhoeven, 84, Coppola, 84, Bellocchio, 83, Soleiman Sissé, 83, De Palma, 82, Miyazaki, 82 et Scorsese, 81.
Bien, cette liste, elle ne dit pas du tout la même chose selon les personnalités. C'est pour ça qu'elle est intéressante au-delà de cette grande longévité, hein, parce que non seulement ces messieurs, ce ne sont que des messieurs, sont âgés, mais ils tournent depuis très longtemps. Ils ont d'immenses carrières derrière eux, mais avec des parcours très différents. Parmi eux, j'ai mis Souleymane Cissé parce que le Festival de Cannes lui a rendu hommage en lui donnant le Carrosse d'Or, mais en fait, Cissé n'a pas tourné depuis 2015. Ne tournera plus, et donc c'est un peu un abus de l'avoir ajouté pour qu'il n'y ait pas que des gens des pays riches, des pays développés, sinon c'est tous ces gens-là viennent des États-Unis, d'Europe, et un japonais, Miyazaki bien sûr, mais on a à la fois des gens qui simplement poursuivent paisiblement leur carrière, on pourrait dire presque comme si de rien n'était. Scorsese n'a jamais dit que Killers of the Flower Moon était son dernier film, il a d'autres projets, etc. Il y a des gens qui arrivent à faire finalement un film dont ils sont porteurs depuis très longtemps. C'est le cas de Coppola avec Mégalopolis, par exemple. Alain Cavalier, dont on a vu récemment, qui est sorti en salle, ce film magnifique qui s'appelle L'Amitié, qui est encore visible. Et puis, un festival en Normandie rend un hommage avec une intégrale à un film, un festival qui s'appelle Les Filmeurs à Conteville, dans l'Eure, et où Alain Cavalier est présent peut-être pour sa dernière apparition publique, c'est ce qu'il annonce en tout cas, mais il fait encore un film derrière, il n'arrête pas de faire du cinéma pour autant. Fred Wiseman, qui n'a jamais arrêté et qui est doublement présent puisqu'il est à Avignon, où l'adaptation théâtrale de son film Welfare est portée à la scène par Julie Deliquet dans la grande cour d'honneur du Palais d'Avignon. Et en même temps, il y a la ressortie de Welfare, le film en salle, et il a réalisé un film que nous attendons sur un grand restaurant français. Donc il continue à travailler, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Beaucoup, beaucoup de ces gens-là, on attend leur prochain film. C'est vrai de Woody Allen, c'est vrai de Verhoeven, c'est vrai de Brian De Palma.
Et même de Polanski.
Et de Polanski. Et donc il y a une activité, dans certains cas, qui est un peu le point d'orgue d'une longue histoire, et pour d'autres qui est tant que ça va, et tant que j'ai des idées, tant que j'ai envie, et tant que des gens me financent, puisque c'est plus compliqué quand même aussi pour les producteurs. Alors, on peut s'appuyer sur le nom, la notoriété. On a mentionné que des très grands noms de l'histoire du cinéma. Ici, ça aide pour trouver des partenaires et des soutiens. Et la longévité aide plus qu'avant, je crois. Personne ne refera, je pense, ce qu'a fait Manuel de Oliveira, qui réalise encore à 103 ans des nouveaux films et des films sublimes. Mais il y a aujourd'hui un intérêt pour le patrimoine cinématographique, et disons-le, un marché pour le patrimoine cinématographique, qui fait que les grands noms prestigieux, ce sont le cas de tous ces messieurs, Skolimowski n'est pas comme De Palma, mais néanmoins, à l'arrivée, ça veut dire quelque chose pour suffisamment de gens, pour qu'on dise, il va y avoir de l'intérêt, des échos, qui vont permettre de faire vivre ces projets.
Alors, le grand film attendu cet été, d'après vous, Jean-Michel Frodon, et je partage votre avis, c'est bien sûr le biopic qu'a réalisé Christopher Nolan autour du père de la bombe atomique.
Oppenheimer, c'est le nom du monsieur et c'est le nom du film. Oui, bien entendu, nous attendons, de toute façon, moi, mais comme énormément de gens, j'attends tous les nouveaux films de Christopher Nolan. Je ne les adore pas tous, mais c'est toujours un moment important de quelqu'un qui a réussi à des propositions extrêmement personnelles à l'intérieur de l'industrie hollywoodienne. Ils sont pas beaucoup. Quelqu'un comme Scorsese, dans une génération précédente, a été comparable. On attend Christopher Nolan. On attend Kauter Benania, avec Les Filles d'Olpha, qui était un des grands films du Festival de Cannes cette année.
Et le Festival de La Rochelle lui rend hommage, avec une belle rétrospective d'ailleurs.
Absolument. Et on attend Nuri Bilge Ceylan, avec Les Herbes Sèches. Et donc on a des grandes variétés au cours de ce mois de juillet, de belles propositions de cinéma, assurées pour Benania et pour Bilge Ceylan, et à confirmer dès qu'on pourra voir Oppenheimer.
Et puis, quel livre allons-nous emporter avec nous cet été si on doit suivre vos conseils, Auriane Jeancourt, et tout en restant dans la thématique du jour, vivre encore intensément?
Écoutez, j'écoutais Jean-Michel et je me disais que les écrivains, ce n'est pas comme les cinéastes, ce serait plus difficile d'en trouver qui arrêtent d'écrire avant de mourir que ceux qui continuent. Je veux dire, c'est un écrivain continue à écrire jusqu'au bout, et je pense à trois très grands noms de la littérature qui nous ont quittés ces derniers mois, Philippe Sollers, Martin Amis et Cormac McCarthy, qui tous ont écrit jusqu'au dernier moment et ont écrit de très très beaux livres jusqu'au dernier moment. Donc il est très très rare que les écrivains s'arrêtent d'écrire. On sait qu'il y a le fameux exemple de Milan Kundera, mais c'est très rare. Alors justement, dans cette thématique, moi je voulais vous parler d'un écrivain qui s'appelle Sigrid Nunez. C'est, à mon sens, un des très grands noms de la littérature américaine aujourd'hui. Elle a 74 ou 75 ans. Et elle a connu...
Encore une... jeune, donc.
Elle a... Oui, c'est vrai qu'à notre aune, aujourd'hui, c'est une enfant. Mais elle a quand même eu le National Book Award qu'en 2018. Donc, c'est intéressant aussi dans notre discussion d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance tardive. Et c'est souvent le cas aussi de gens qui sont très connus à 80, 90 ans. C'est aussi qu'on les a découverts assez tard. Sigrid Nunez, elle a donc eu le National Book Award pour L'Ami, qui était un livre sur le vieillissement. L'Ami, c'est un grand écrivain new-yorkais, on peut reconnaître Philippe Wass, on peut en reconnaître d'autres, qui a appartenu à la grande époque de la littérature américaine, des Updike, des années 70-80, et qui se retrouve au début du 21e siècle un peu démuni. Démuni par la société telle qu'elle va, démuni par la société dans ses changements, je n'ai pas besoin de vous dire la société américaine, le féminisme, le wokisme, comme on dit. Démuni aussi parce qu'il n'a plus l'énergie et l'ampleur de ses 40 ans. Et donc L'Ami, cette figure qu'elle écrit avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'admiration, eh bien va finir par se suicider. Et donc c'est un très très beau roman. Aujourd'hui, elle publie un livre qui n'est pas très loin du sujet, qui s'appelle « Quel est donc ton tourment ?»
Chez Stock.
Chez Touche les deux, aux éditions Stock. Et là, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de la mort d'une femme, une intellectuelle aussi. Sigrid Nunez appartient à ce petit monde intellectuel new-yorkais. Et donc, elle parle beaucoup de gens intellectuels. Et donc, une intellectuelle qui va mourir. Elle n'est pas si vieille, mais elle est atteinte d'un cancer. Et elle décide de procéder à une euthanasie. Et à un euthanasie. Et donc, elle va demander à une amie, qui est donc la narratrice, de l'accompagner pendant les dernières semaines. Et quel est donc ton tourment? C'est un titre emprunté à Simone Veil, à une citation magnifique de Simone Veil que je vais vous lire, qui est « La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est donc ton tourment ?» Et donc c'est un livre sur la mort, c'est un livre sur la fin de la vie, mais c'est aussi un livre sur la possible empathie jusqu'au bout.
Quel est donc ton tourment de Sigrid Nunez et chez Stock, et on termine par une bande dessinée, Les temps retrouvés. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Toufik.
Alors, cette bande dessinée, on reste toujours avec ce thème, le grand âge.
Alors le grand âge, c'est un exercice assez difficile pour moi, parce qu'il y a plein de bandes dessinées qui traitent de la vieillesse, même du quatrième âge, à la fois drôle, dramatique et nostalgique, mais pour une fois j'ai choisi une romance. Donc Les temps retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai chez Kiun.
Donc manga ?
Un manga, oui. Alors en fait, le sujet principal, c'est il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Et les deux personnages principaux, Ipei et Kotoko, des veuves, vont nous montrer qu'on peut refaire sa vie, même âgé. Voilà. Donc on suit pendant plusieurs pages, c'est une série en deux tomes, leurs aventures assez rocambolesques parfois, parce qu'ils sont rejetés par une partie de leur famille et surtout par leurs enfants, parce que ça se fait pas de se remarier à cet âge-là, on pense encore à sa femme. Et finalement, il y aura une forme de happy end où ils vont racheter une ancienne maison, qu'ils vont reconstruire ensemble, et ils vont vivre leur fin de vie sous les meilleurs auspices.
Vous rappelez le titre de cette bande dessinée, Les temps retrouvés, c'est ça ?
C'est ça, de Kei Fuji et de Kokoro Hirai.
Et c'est chez Kiun. Merci beaucoup Frédéric Michel, merci Oriane Jeancourt et merci Jean-Michel Frodon. Bel été à vous.
Affinité culturelle. Toufik Hakem, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Émission préparée avec Marceau Vassy, à la prise de son Jean-Guy Lemège et à la réalisation Vincent Abouchard.